France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, philosophe et écrivain, a choisi d'évoquer un texte devenu culte. Un texte qui n'a rien d'un essai philosophique comme les autres. Le récit d'une vie dans les bois, à cultiver des haricots et à contempler le fond d'un étang comme on scrute l'âme humaine. C'est Walden de Henry David Thoreau, ombrageux et susceptible, paraît-il.
Tant à ce rebelle ombrageux et susceptible qu'était Thoreau, sa vocation semblait être de ne rien faire comme les autres et de dire non. Non aux idoles sociales. Non aux institutions. Un impôt lui paraît injuste. Il se laissera emprisonner plutôt que de le payer. Il y a de lui un article célèbre sur le citoyen et la désobéissance, dont Gandhi, entre autres, faisait ses délices. Tournant donc le dos aux erreurs d'un siècle matérialiste, Thoreau va s'isoler 2 années durant dans la petite cabane sans confort qu'il a construite de ses propres mains au bord de l'étang de Walden. Et, dans cet ermitage, il va apprendre à lire. Je veux dire, à lire la nature, et cela nous vaut le plus beau livre de nature de la littérature américaine, qui est aussi naturellement un livre de sagesse.
Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe et écrivain. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, parmi les plus récents, Agro-philosophie réconciliée nature et liberté, paru aux éditions de l'Observatoire. Aux mêmes éditions de l'Observatoire, un roman, le roman Humus. Il y en aura un prochain en janvier qui s'intitule À quoi ? Pourquoi avoir choisi de parler de Henry David Thoreau et notamment de ce livre, on peut le dire, hein, un livre devenu culte, Walden, et qui est même présenté dans cette archive de 64 comme le plus grand livre de la nature, de nature américaine et comme un livre de sagesse.
Oui, alors d'ailleurs...
C'est un peu écrasant comme choix. Hein,
oui, mais justement, je suis pas tout à fait d'accord avec ces propos-là, parce que c'est un livre de nature, mais c'est aussi un livre sur la société, sur l'économie, sur la politique. Ouais. C'est un livre très engagé sur les questions de son temps. Et quand il parle de Thoreau comme un ermite, c'est un peu le malentendu qui traîne. C'est pas du tout un ermite. Il a sa... Et c'est ça qui m'a intéressé, en fait, et qui m'a surpris dans ce livre. Parce que je me suis dit... C'était un été, il y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, où j'avais décidé de lire vraiment tous les grands classiques de l'écologie pour me faire une opinion.
Et pourquoi?
Bah parce que je considère que c'est maintenant un sujet tellement grave, tellement important, tellement riche que je sais pas sur quoi d'autre on peut penser ou écrire. Et donc il fallait que je comprenne ce que les autres en avaient déjà dit. Enfin, évidemment, on n'a jamais fini ce travail, mais ce qui m'a surpris dans ce texte que j'abordais. Bon, que j'abordais sans enthousiasme en me disant, bah, ça va encore être un texte sur, justement, un ermite dans les bois, d'une grande contemplation de la nature. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est pas du tout un ermite. C'est quelqu'un qui reçoit en permanence des gens. En fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours des gens qui viennent. Il va à la ville qui est à un mile et demi de sa cabane. Il vend ses haricots au marché. Il tient ses comptes. En fait, c'est le livre de quelqu'un qui est très engagé dans sa société, dans la politique de son temps et qui va prendre, faire ce pas de côté, imaginer ce décalage pour mieux la regarder. Comme il dit dans un autre texte, le moment justement où il a été emprisonné, ce fameux épisode de désobéissance civile, il dit bah, je pouvais depuis ma prison regarder l'État tel que ceux qui sont dedans ne peuvent pas l'apercevoir eux-mêmes. J'avais tout d'un coup une espèce de ligne de fuite, un point de vue, une perspective sur laquelle je pouvais regarder la totalité de ma société. C'est un peu ce qu'il reproduit ou ce qu'il fait dans sa cabane aussi, de manière plus volontaire. Et c'est aussi un style de, enfin, une manière de philosopher On peut se demander si c'est de la philosophie, mais pour moi, c'est l'essence de la philosophie, en fait. C'est de raconter des histoires et d'en tirer des interprétations plus larges, et de faire des expérimentations sur soi. Et donc, c'est aussi un guide de vie qui fait qu'ensuite, chacun a sa manière, parce que c'est pas du tout prosélyte. Il cherche pas à ce que tout le monde se construise une cabane dans la forêt.
Mais oui, c'est pas un manuel. Il dit pas « suivez mon modèle ».
Il dit surtout pas, d'ailleurs. Il dit surtout pas. Moi, je vous donne ma perspective, mais ensuite, chacun doit pouvoir se la réapproprier. Et en fait, ce texte, il nous travaille, et il me travaille parce qu'il permet de faire des choix dans sa vie presque quotidienne en disant, bah, là, comment je pourrais simplifier ça? Est-ce que je suis pas en train, pour ce gain de confort, de me créer énormément de complications? Oui. Voilà, c'est la question récurrente qu'il pose.
Donc, il y a quand même deux malentendus vis-à-vis de ce texte, Walden. C'est déjà d'en avoir fait le texte d'un ermite et ensuite d'en attendre peut-être une théorie politique qui nous donnerait tous les principes d'une philosophie à suivre. Néanmoins, sur la solitude, on va y revenir, mais j'ai quand même envie de vous citer juste cet extrait, Gaspard Koenig, où il dit, Sorrow, chez moi, je jouis d'une abondante compagnie, surtout le matin, quand personne ne me rend visite.
Oui.
Alors voilà, quand même sur la solitude, on va y revenir, mais il y a quand même une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a aussi, ben voilà, il est antipathique, Sorrow. Moi, je l'ai lu cette semaine, je me suis dit, mais oui, mais va dans les bois, arrête en fait de vouloir parler aux autres, tu n'es pas sympa.
Le portrait qu'en fait Emerson, qui est son éloge posthume, et à la fois un portrait, évidemment, voilà, plein d'empathie pour Sorrow, plein d'admiration pour Sorrow, mais il en ressort effectivement un homme assez antipathique, parce que très condescendant finalement. Et pourquoi? Parce qu'il a une exigence tellement forte par rapport à lui, par rapport à ce que devrait être la vie et le fait de jouir de la vie à plein, qu'il a une tolérance vraiment très très limitée pour les Philistins, pour ceux qui gâchent leur vie à la gagner. Et je pense pas que ce soit un moraliste, je pense pas que c'était quelqu'un qui vous faisait la leçon, mais c'est quelqu'un qui très vite devait se détourner parce que vous lui faites perdre son temps. Et, mais en revanche, il raconte dans son livre qu'il a passé des soirées interminables avec l'ancien propriétaire, je crois, des bois. Celui qui, dit-on, avait creusé l'étang. Alors, c'est un mythe, il avait juste aménagé les berges, parce que c'est un étang qui vient de l'âge glaciaire. Et là, on voit qu'il pouvait passer des heures et des heures avec des gens qu'il estimait, pas forcément parce qu'ils avaient une grande culture intellectuelle, mais parce qu'ils avaient fait quelque chose, parce qu'ils avaient une sagesse avec lesquelles ils pouvaient échanger. Mais très vite, il fait le tri. Effectivement, dans sa cabane, alors il dit à un moment donné, il dit une seule fois sur les 2 ans, 2 mois, 2 jours qu'il y a passé, une seule fois il a souffert de la solitude, il a eu l'angoisse de la solitude, et en fait très vite cette angoisse elle s'est guérie, non seulement par les visites incessantes qu'il recevait, alors il disait d'ailleurs j'ai une chaise pour la solitude, 2 chaises pour l'amitié, 3 pour la société, et quand il y en a plus, il reste debout, voilà.
Et il doit partir, parce que c'est là où ça devient en général un trop-plein presque.
Oui, oui, et puis clairement il l'a dit d'abord quand ils sont trop nombreux, moi je leur donne pas à manger, j'attends pas de mes invités qui viennent le ventre vide, donc débrouillez-vous. Donc on voit que c'était pas, il faisait pas preuve d'une hospitalité incroyablement généreuse. Mais
ah
surtout,
oui, il a pas d'eau, il leur dit allez vous servir dans l'étang.
Dans l'étang ou dans la source avec laquelle lui-même va puiser. Donc évidemment, il va pas. C'est très dans sa philosophie, qui est quand même une philosophie assez individualiste.
Complètement.
Qui d'ailleurs est assez hostile à la charité, très très méfiante vis-à-vis des discours de solidarité. Il dit d'abord faites preuve un peu, montrez-moi ce que vous savez faire, comment vous savez vivre et survivre, et puis après on va causer. Mais je suis pas là pour vous faciliter la tâche. Mais la dernière chose que je voulais dire sur la solitude, c'est comment il guérit cette première angoisse de solitude. C'est en fait qu'il s'aperçoit qu'il est constamment entouré, non pas d'êtres humains, mais surtout de vivants non humains, et qui sont vraiment ses interlocuteurs permanents. Il leur parle par l'esprit, si je puis dire, en permanence.
Comment vous expliquez, Gaspard Koenig, la postérité de ce texte, ce succès, alors même que effectivement, il y a peut-être un certain nombre de malentendus sur ce qu'il contient, sur le fait que effectivement on n'a pas le livre d'un ermite qui ne fait que contempler la nature, on n'a pas un manuel non plus de vie, et puis on a un être qui certes n'est pas moralisateur et fait preuve d'humour. Enfin,
beaucoup.
En fait, on rit, mais en fait on rit parce qu'en fait il est terrible avec les autres. Vous voyez, il se permet des choses qu'on aimerait pouvoir se permettre, mais qu'on se permet pas par civilité. Alors cela, il est assez drôle, mais c'est pas vraiment ces choses-là qu'on met en avant. Ce qu'on va mettre en avant, c'est l'idée que Sorrow pourrait nous donner envie de vivre une autre vie. Mais à quoi ça tient ce succès, alors même qu'on n'en perçoit pas quand même l'aridité, la solitude paradoxale.
Alors, je pense d'abord qu'il y a un imaginaire de la cabane qui est extrêmement puissant dans l'humanité, qui explique aussi le succès des textes de plus récents, de Tesson, ou d'Abel Quentin quand il écrit Cabane. Enfin, voilà, l'idée de pouvoir d'avoir cette possibilité de se réfugier hors du monde, d'être dans une forme d'autarcie, est quelque chose qui attire énormément. Je pense que le projet, l'imaginaire de ce projet-là est quelque chose qui est anthropologiquement très ancré, qui nous attire naturellement vers ce genre de texte. Mais ensuite, quand, pour ceux qui plongent dans le texte, on découvre autre chose, mais on découvre aussi quelque chose de génial. C'est que, certes, c'est un personnage qui n'est pas forcément très sympathique, qui est assez ascétique d'ailleurs, qui boit pas d'alcool, qui enfin ne parle jamais, parle à une certaine abstinence, y compris sexuelle, en tout cas, et un désir de chasteté revendiqué. Mais en même temps, c'est un texte qui est d'abord drôle, effectivement, et très très riche en histoire naturelle, histoire d'animaux, mais aussi en histoire humaine. Il raconte constamment comment les choses se passent, et donc il a un talent de presque de conteur, un talent narratif, et une forme aussi d'irrévérence qui fait que on est vraiment entraîné par ce texte. On s'ennuie pas du tout dans ce texte. C'est très animé en fait. Il met en place un monde nouveau qu'on connaissait pas avant lui et qu'on n'a pas beaucoup reproduit après lui.
Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous l'avez découvert ? Parce que en général, les invités à ce micro choisissent quand même des textes qui les ont marqués plutôt à l'adolescence ou au début de leurs études ou à l'agrégation, qu'ils ont dû travailler voilà de force ou sur lesquels ils sont tombés, qui a changé leur perspective et leur trajectoire. Vous, c'était il y a 3 ans, donc en fait, c'est vraiment l'histoire récente, là.
En fait, si j'avais pris un texte plus ancien et un texte d'agrégation, moi, j'aurais pris Tocqueville. Tocqueville m'a beaucoup fait changer la manière de voir le monde, la politique, mais d'abord, Tocqueville, c'est plus étroit, quelque part, c'est moins une expérience de vie. Et puis surtout, moi, j'ai eu ma propre, quand même, conversion, effectivement, plus récente, ou épiphanie sur la question écologique. Et maintenant, c'est ce qui compte le plus pour moi. Voilà. Et ça sert à rien, finalement, de parler de philosophie politique si on est en train de détruire la vie. Donc, il faut aller vite à l'essentiel. Et quelque part, je suis en train, y compris pour moi-même, de combler ce retard que j'avais pris.
Alors, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous l'avez lu ? Qu'est-ce que vous avez tout à coup découvert comme perspective que vous n'avez pas trouvé d'ailleurs dans les autres livres portant sur ce sujet et que vous avez lu au même moment ?
D'abord, c'est une expérience de vie, encore une fois, qui est extrêmement intense et dans laquelle donc on peut se reconnaître et qu'on peut, à sa manière et en se la réappropriant, reproduire. Et puis, c'est une perspective politique, au fond, sur la manière dont peut se construire une société. Je ne sais pas si on peut dire respectueuse de l'environnement, mais en tout cas inscrite dans son milieu, qui conduit aussi à ses théories sur la désobéissance civile, qui sont complètement liées à la manière dont même il va cultiver des haricots. Et en fait, je me suis aperçu en écrivant mon dernier texte que Sorrow m'aidait énormément pour penser des sujets extrêmement contemporains, comme par exemple l'agroécologie. Je pense qu'il en est vraiment, on en reparlera sans doute, le fondateur intellectuel. Du marché, du commerce, dans une société qui n'est pas croissante ou qui est décroissante, et des choses souvent assez contre-intuitives dans le milieu ou dans la pensée écologiste contemporaine.
Comme par exemple ?
Je pense que c'est le prochain texte qu'on va lire, mais enfin, le fait qu'il n'est... Il faut nuancer un peu, mais qu'il n'est pas hostile au commerce. Il n'est pas hostile au progrès. Il n'est pas hostile à la civilisation humaine. Il n'est pas du tout dans un espèce de retour à la nature fantasmatique. Par exemple, sur les questions agricoles, il cultive lui-même. Donc, il en tire une théorie, mais enfin, une théorie où il met la main à la pâte. Donc, c'est extrêmement incarné comme manière de voir ces sujets.
Et quand on lit Sorrow comme vous, Gaspard Koenig, et que on voit en fait qu'il y a une vraie identification entre la théorie, enfin entre le texte et la vie, ça change pas seulement la manière de voir, ça change aussi la manière de vivre. Non, alors.
Mais absolument.
Donc vous avez tout changé en 3 ans.
Ah non, j'ai pas tout changé, mais je change petit à petit. Et je pense que je me suis débarrassé de beaucoup de choses. J'ai éliminé énormément d'activités, par exemple, que je faisais. Doucement, sans grande rupture, sans prendre...
Vous avez toujours des pichets chez vous, quand même. Il n'a plus de pichets.
Il n'a plus de paillasson non plus, donc il va assez loin. Mais en revanche, à chaque fois, je me pose la question. L'excellente question qu'il pose à un moment dans le livre, c'est est-ce que la solution que je vais apporter à ce problème n'est pas plus compliquée que le problème lui-même ? Et cette espèce d'impératif, d'obsession de la simplification, c'est le seul moment dans le texte où il a vraiment un cri. Il répète trois fois « simplify, simplify, simplify ». Il dit « votre vie doit tenir en quelques chiffres ». Et effectivement, c'est très compliqué dans une société qui déborde de normes et où tout est compliqué. Mais en fait, avoir cette... Je vais prendre un exemple très très simple. Quand je fais des conférences, des tables rondes, etc., il y a toujours quelqu'un qui vient me voir en disant « Attendez, on va préparer, on va bien préparer. Alors vous allez dire ça, lui va dire ça. Alors il faut organiser la préparation. Donc je vais vous appeler pour qu'on trouve un rendez-vous de préparation, etc. »
Comme on a fait pour cette émission d'ailleurs, Gaston.
Un peu différemment, mais moi, quand je peux, je dis « Mais simplify, simplify. Il n'y a pas de préparation. Si vous voulez me parler, vous m'appelez. » Quand vous voulez, mais arrêtons de surorganiser. Mais ça demande une espèce de discipline quotidienne, parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Ils ont l'impression que c'est très hostile, en fait, comme attitude. Donc, toujours prendre les choses à rebours et se demander, par exemple, à un moment donné, il dit quel est le moins cher entre la marche à pied et le train ? Quel est le moyen le plus rapide, pardon, d'arriver à un point, la marche à pied ou le train ? C'est bizarre, il dit la marche à pied. Et ben, pourquoi ? On ne comprend pas, c'est presque un bon test logique à faire. Il dit, bah oui, parce que pour prendre le billet de train, pour payer mon billet de train, je vais devoir travailler 2 jours. Et pour atteindre ce même lieu à pied, ça va me prendre 1 journée. Donc en fait, vous aurez trimé pendant 2 jours à faire des choses inutiles, pour ensuite prendre quelques heures pour faire ce trajet emprunt, ça vous aura pris 2 jours et demi. Moi, ça m'aura pris 1 journée, en plus je me serais fait plaisir, j'aurais marché. À chaque fois, il inverse la manière de penser les choses.
Alors j'ai été étonnée, Gaspard Koenig, on va bientôt écouter le premier texte que vous avez choisi, mais j'ai été étonnée, comme vous avez justement cité la simplicité, que vous avez travaillé sur la simplicité, que ça a été même un mot d'ordre politique,
oui,
pour vous, que vous n'ayez pas choisi ce texte. J'en cite juste quelques lignes. « Je suis partie dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner et non pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu.
Exactement.
Je ne désirais pas vivre ce qui n'était pas une vie, car la vie est très précieuse. Notre vie s'émiette en menus détails. Un honnête homme a rarement besoin de compter davantage que sur ses 10 doigts et dans les cas extrêmes, il peut y ajouter ses 10 orteils et laisser tomber le reste. Simplicité, simplicité, simplicité. »
Oui, ben encore une fois, c'est quelque chose qu'on devrait avoir à la tête en fait en permanence et qui change nos actions quotidiennes. Et si j'ai pas pris ce texte, c'est que je savais qu'on allait en parler. Donc je me suis dit, je vais utiliser mes 2 jokers.
Mais il est tellement beau. Franchement, il est. Ah oui, vous utilisez les 2 jokers. Oh, vous auriez pu négocier justement dans ces temps de préparation.
Mais oui, non, il est magnifique. Oui. Ce qu'il veut, c'est trouver la vie à l'os. Extraire la moelle de la vie. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête en se disant, mais finalement, là, je vais prendre 2 jours pour aller ramasser mes pommes ou que sais-je. C'est ma priorité. C'est l'essentiel de ce que je dois faire, y compris si je dois sacrifier des choses qui, dans notre société, sont considérées comme plus valorisables. Et on passe notre temps, en fait, à reporter ce qui est l'essentiel de la vie. C'est-à-dire, ça, je le ferai plus tard. Ou quand on parle beaucoup de retraite, et là, souvent, les gens disent, les choses importantes pour moi, je les ferai après, je les ferai à la retraite. Mais il faut absolument trouver les moyens de les faire tout de suite.
Mais ce qui est décrit très bien aussi, Sorrow, c'est que, en fait, les hommes sont devenus esclaves de leur travail. Ce qui était censé les libérer les a complètement soumis. Et c'est difficile. Vous dites, par exemple, pourquoi je n'ai pas tout de suite récupéré, recueillir mes pommes ? Encore faut-il avoir ces pommes, ces pommiers. Vous voyez, la philosophie de Sorrow, quand on est pris dans des routines de travail, de vie quotidienne, de soucis matériels, on bute quand même contre ça.
On bute énormément et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que c'est quelque chose qui est très exigeant et qui est plein d'obstacles. Alors il dit effectivement, on est devenus les outils de nos outils. Mm-hmm. C'est très juste et encore plus aujourd'hui.
On est devenus les troupeaux de nos troupeaux même, il dit.
Et la division du travail a poussé les choses à un tel point que maintenant on délègue même notre pensée à des machines. Et lui, il dit, mais non, il faut se réapproprier même le plaisir, par exemple, de construire sa maison. Mais pour ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il tient ses comptes, Sorrow. C'est-à-dire que il n'est pas du tout pour le droit à la paresse, type Lafargue. C'est pas ce genre d'anarchie-là. Au contraire, il tient beaucoup à ce que les gens travaillent, mais travaillent pour quelque chose qui fait du sens. Et donc, lui, par exemple, il va travailler 2 mois et demi par an, il explique très clairement, pour cultiver ses haricots, parce qu'il a calculé, et il nous montre son calcul, au dollar ou au cent près, que le produit de son champ de haricots lui permettra de satisfaire exactement les besoins qu'il a pour ses combustibles, pour enfin des choses qu'il peut pas produire lui-même. Et donc, il est fier de travailler et de vendre ses haricots. Il les consomme pas lui-même. Il est pas dans un espèce de désir d'autosubsistance, mais simplement il a calculé à l'os justement son temps de travail pour se dégager le plus de temps possible à la vraie vie, c'est-à-dire à aller cueillir des myrtilles ou nager dans le lac le matin ou prendre sa barque. Et à l'inverse, il rencontre un fermier qui s'appelle Baker, auquel il consacre un chapitre, qui lui ne s'en sort pas, essaye constamment de faire trop, s'endette et Solo lui dit « Mais en fait, tu pourrais avoir une vie tellement belle, exactement dans la situation où tu es, tu en as la possibilité matérielle, mais comme tu t'entêtes dans un autre idéal avec d'autres objectifs, eh bien tu te ruines toi-même. »
Mais ça voudrait dire quoi, Gaspard Koenig, par exemple, aujourd'hui, on doit travailler tous les jours, on habite en ville, on a des enfants, hein, Solo n'a pas de famille, donc ça, c'est vrai que ça enlève aussi quand même une source d'occupation, de revenus obligatoires. Qu'est-ce qu'on en tient, du coup, de Solo ? J'anticipe sur ce qu'on peut dérouler jusqu'à la fin de l'émission, mais ça m'intéresse vraiment, c'est-à-dire que moi, je lis Solo, je me dis, qu'est-ce que je peux en tirer ? Tout en gardant quand même en fait des obligations que je dois avoir, c'est-à-dire recalculer ce que je mange, recalculer la manière dont j'achète.
D'abord, donc Solo non seulement n'a pas d'enfant, mais il n'a pas non plus presque, j'allais dire, d'être cher ou d'être proche. Alors il a son frère avec qui il avait monté une école et dont la mort prématurée l'a beaucoup fait souffrir et l'a beaucoup interrogé d'ailleurs sur métaphysiquement sur la mort, la nature. C'est pour ça qu'il dit finalement dans la nature il n'y a pas de mort, tout se renouvelle, tout se régénère, ce qui est assez fort. On dit la mort n'existe pas au fond. Il y a une attitude stoïcienne mais à laquelle il donne une sorte de substance agronomique. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, il s'est mis... Mais c'est parce qu'il a aussi construit sa vie pour ça. C'est-à-dire que ne pas avoir de compagnon, ne pas avoir d'enfant, c'est aussi un choix qui lui permet d'aller jusqu'au bout de son de sa vision de l'existence. Et évidemment, il le dit lui-même. Il le dit, mais surtout, ne faites pas comme moi. Je ne demande pas à tout le monde de vivre ainsi. Mais simplement, chacun, à sa manière, peut s'arranger et... Moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui font des efforts totalement inutiles pour obtenir ensuite. C'est la vieille histoire un peu comique du pêcheur. Où il y a un pêcheur au Nouveau-Mexique qui pêche son poisson le matin, qui va boire un coup avec ses amis à midi et qui ensuite fait la sieste et qui est très heureux comme ça. Et puis, il y a un homme d'affaires de la ville qui arrive et qui lui dit « Mais écoute, franchement, t'as beaucoup de talent et tu devrais t'acheter une autre barque, emprunter un peu et puis comme ça, tu pourrais vendre plus de poissons. » Et il dit « Ah bon, mais qu'est-ce que j'en ferais ?» Bah, une fois que t'as vendu vraiment beaucoup de poissons, bah, tu peux le vendre en gros et puis ensuite, tu pourras le vendre au grand marché et puis après, tu peux monter ton entreprise de poissons. Et bon, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ensuite, tu auras beaucoup d'argent et qu'est-ce que je vais faire avec cet argent ? Bah, avec cet argent, tu pourras prendre du temps. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce temps ? Bah, par exemple, tu pourras pêcher le matin, boire un coup avec tes amis à midi et puis faire la sieste l'après-midi. Et en fait, souvent, on se complique énormément la vie pour des objectifs qu'on pourrait atteindre en fait sans tout ce travail.
On va écouter tout de suite un premier extrait, donc votre texte Joker, pas sur la simplicité, extrait de Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau.
Le commerce est étonnamment confiant et serein, alerte, aventureux et inlassable. Il est en outre très naturel en ses méthodes, beaucoup plus naturel que bien des entreprises et expériences sentimentales fantastiques, d'où son succès singulier. Je me sens rasséréné et enthousiaste lorsque le train de marchandises passe en cliquetant bruyamment à mes côtés et que je hume les denrées qui filent en répandant leur odeur de Long Wharf au lac Champlain, faisant naître en mon esprit des évocations de lieux étrangers, de récifs de corail, d'océans indiens et de climats tropicaux. Un certain sens de l'étendue du monde. Mon sentiment d'être un citoyen du monde enfle à la vue de la feuille de palmier qui couvrira tant de têtes blondes de la Nouvelle-Angleterre l'été prochain, à la vue du chanvre de Manille et des coques de noix de coco. à la vue de vieux cordages, de sacs en toile de jute grossière, de tas de ferrailles et de clous rouillés. Ce wagon, qui passe plein de voiles déchirées, est plus lisible et plus intéressant tel quel que lorsque ces mêmes voiles seront transformées en papier et en livres imprimés. Qui saurait écrire de façon plus poignante que ne le font leurs déchirures l'histoire des tempêtes qu'elles durent traverser?
Extrait lu par Nicolas Berger, donc, de Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau. C'est la traduction de Jacques Mélos. On est dans le chapitre qui s'intitule « Son ou bruit ». Ça dépend des traductions. Et vous avez choisi ce texte, Gaspard Koenig, qui m'a beaucoup étonnée.
Oui.
À la fois parce qu'il dit, on va y revenir, parce que c'est ce que vous avez commencé à souligner, cette articulation entre le libéralisme et l'écologie, l'écologie et le marché qui est possible. Mais aussi parce que il n'a pas le côté slogan de simplicité, simplicité, simplicité. On est vraiment au cœur, en fait, d'une longue description hein, dans le livre sur le train, sur le commerce et sur, effectivement, voilà, cette mélange entre observation de la nature et de ces éléments du progrès technique.
Oui, et c'est ça qui m'a... C'est un texte qui m'a aussi surpris et qui, je pense, va surprendre l'auditeur. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. D'abord, je vais commencer par le son, puisqu'effectivement, c'est le titre du chapitre. Et je voudrais comparer cette expérience avec celle de Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire, qui part à un moment donné dans une forêt qu'il juge complètement sauvage, il imagine qu'il est seul au monde, que personne n'est jamais rentré là, qu'il est une sorte de Christophe Colomb, et tout d'un coup il entend, je cite, le cliquetis d'une usine. Et là ça l'agresse personnellement. Il dit « Ah, les hommes sont là et je suis sûr que dans cette usine ils disent du mal de moi. »
Ouais, bah, il était paranoïaque aussi.
Oui, mais c'est aussi qu'il y a une certaine forme d'amour de la nature qui est au fond le reflet d'une vraie misanthropie. Et on aime la nature parce que, enfin, on est loin des hommes, débarrassé des hommes. Et tout d'un coup, on a un espèce de rapport sentimental aux oiseaux, aux arbres, parce que ce sont nos vrais amis. Et on voit que Thoreau, lui aussi, confronté à un son qui pourrait le déranger, parce qu'il est dans sa cabane, il regarde son lac, il écoute le bruit des feuilles dans le vent. Et puis, régulièrement, dans la journée, il y a ce gros bruit de train siffler. En plus, c'est les trains du 19e siècle, donc on peut imaginer que c'est vraiment très impressionnant. Et il arrive à y trouver plaisir, à ne pas le condamner, à ne pas dire « Ah, c'est terrible, cette modernité qui nous empêche de jouir du moment présent. » Il arrive à se dire « Mais au fond, un son est un son. Les hommes sont des êtres naturels. Le sifflet de ce train, c'est un peu comme le chant des oiseaux, c'est autre chose, mais je peux l'intégrer à mon milieu, à mon environnement. » Et je pense que aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai lu une statistique absolument effrayante qui dit que 95% des espaces français, du territoire français, est soumis à des bruits d'origine anthropique. C'est-à-dire que c'est autant on peut se réfugier de la civilisation visuellement assez facilement, mais sur le plan auditif, c'est très rare. Il y a toujours une route, un avion, une usine quelque part, une tondeuse à gazon qui vous rappelle l'humanité. Et il ne faut ce texte de Thoreau nous aide à ne pas s'en désespérer, à essayer de trouver ce qu'il y a peut-être de beau là-dedans, de nouveau. Et ensuite, sur le fond, d'abord, il a cette... on voit très bien qu'il est, pas antipatriote, mais enfin clairement antinationaliste. Il y a cette histoire de citoyen du monde, où quand même le brassage des êtres humains, des espèces animales, végétales, et aussi des marchandises, fait partie d'un même flux de la vie. Il ne va pas scinder cette espèce d'énorme maelstrom dans lequel nous vivons et que dans lequel finalement il trouve une certaine poésie, une certaine beauté. Et puis encore une fois, alors il est très évidemment, il condamne de manière très très forte les industriels et surtout les industriels esclavagistes. Il a des mots très durs sur le goût du profit, l'âpreté au gain. Ça, c'est évident. Mais le fait d'échanger des marchandises n'est pas quelque chose qui le répugne en soi. Voilà.
Alors, j'aimerais qu'on revienne, Gaspard Koenig, justement sur ce que vous venez de dire, et notamment, en fait, ce qui est en jeu, c'est-à-dire une redéfinition épistémologique de ce qu'est la nature. pour Sorrow, parce que c'est aussi un des enjeux de l'écologie. En fait, c'est savoir de quoi on parle quand on parle de la nature. Et vous l'avez très bien dit, chez Rousseau, en fait, la nature, c'est une sorte d'antagoniste à l'humanité. C'est une opposition, c'est une entité adverse, comme si on pouvait, nous, individus, ou en tout cas comme si on était Rousseau, aller de l'humanité à la nature. Or là, Sorrow nous dit, non, la nature, c'est aussi le bruit d'un wagon. Est-ce qu'il faut vraiment entendre ça comme ça chez lui, ou au contraire, voilà, le monde comprend à la fois des éléments naturels et des éléments humains, c'est un grand tout, un grand flux, ou alors c'est la nature qui joue ce rôle-là, ce qui redéfinit totalement l'idée qu'on peut se faire d'une nature?
D'abord, je pense qu'on parle beaucoup de nature writing pour Sorrow, mais j'ai pas l'impression, le sentiment, il faudrait vérifier, mais qu'il parle beaucoup de nature en tant que telle. Il va parler énormément de tel oiseau qui l'accompagne.
D'éléments naturels, on pourrait dire d'éléments naturels.
Voilà, de tel combat de fourmis qu'il observe avec attention. Mais la nature en soi n'est pas divinisée par Sorrow. Il va jamais parler de la mère nature, par exemple. Et à l'inverse, quand il va à Concorde, donc dans la ville qui est à côté, il dit qu'il éprouve aussi du plaisir à s'asseoir dans la rue, à regarder les enfants et les gens qui passent, qui a un plaisir similaire à celui qu'il trouve dans ses bois à écouter les oiseaux. Et donc, simplement, aujourd'hui, on parle beaucoup avec Descola
Donc Philippe Descola, l'anthropologue.
Voilà, de transgresser cette partition entre nature et culture qui, finalement, a été renforcée par les naturalistes à la Rousseau. Ce genre de texte nous y aide, nous dit, mais en fait, tout ça, c'est ce qui est, quelque part. Il faut être un peu spinoziste. La nature, c'est tout. C'est ce qui existe ou ce qui vit, éventuellement. Et un être humain fait partie de la nature de manière absolument évidente, intrinsèque, indissociable de ce qu'il est, du milieu qu'il se construit. Et Sorrow lui-même, quand il construit sa cabane, qui réfléchit beaucoup à la manière dont il va la construire avec le maximum d'économie pour avoir... En fait, il reproduit exactement ce que vont faire les animaux quand ils se construisent un terrier. Ils le voient comme ça. Ils disent, un animal qui se construit un terrier ou un nid va chercher à optimiser complètement l'énergie, la nourriture, l'abri par rapport aux prédateurs. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il se met dans cet état d'esprit. Donc, sa cabane, c'est un nid, c'est un terrier, ni plus ni moins. C'est exactement la même chose, en fait. Donc, il renature l'homme, il le rend sauvage, beaucoup. Il nous fait redécouvrir la part de sauvage que nous avons en nous. Il va vers la nature sauvage, mais il comprend aussi en quoi notre société elle-même garde ces éléments de sauvage qui lui sont inhérents.
Mais on va revenir sur cette part de sauvage, notamment avec le deuxième texte que vous avez choisi, Gaspard Koenig. Mais avant ça, quand même, cette redéfinition de la nature, elle est quand même assez frappante. Est-ce qu'il maintient néanmoins une hiérarchie, ou en tout cas une distinction, à défaut de hiérarchie, entre des artefacts, donc des produits des hommes, entre les hommes eux-mêmes et entre, par exemple, une montagne. Est-ce qu'il les différencie? Est-ce qu'il les hiérarchise? Et je pose cette question à dessein parce que il encourage quand même les êtres humains qui le lisent, qui l'entendent, parce qu'il s'adresse vraiment à eux dans ce texte, quand même à modifier leur manière d'être. C'est aux hommes de le faire. C'est-à-dire qu'un oiseau ne va pas le faire de la même manière qu'un humain et des rails d'un train non plus.
Alors, encore une fois, il n'est pas du tout conceptuel. C'est-à-dire qu'il y a...
Mais c'est pas du Kant, faut le dire.
C'est même l'inverse. Pour moi, c'est ça la vraie philo. Mais il élabore absolument aucune théorie du monde avec toutes ces questions. Alors, on peut les déduire de son texte, probablement, ces questions-là. Mais c'est des textes qui se contredisent parfois. C'est comme dans Montaigne, c'est ça qui est beau. C'est que ça part un peu dans tous les sens. Il y a des détours et il n'y a pas une espèce de systématisme logique.
Puis il y a de l'ironie, parfois, et du second degré qui nous perdent sur le... qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Est-ce que là, il est sérieux et effectivement, il se contredit. Je pourrais vous donner des tas de pages, Gaspard Koenig, qui contredisent ce texte-là qu'il tient sur le commerce.
Il y a plein de pages, il y a plein. Ouais, mais c'est ce que je disais, les industrialistes, esclavagistes, etc. Le goût du lucre, tout ça, c'est des choses qui lui font bien sûr horreur. Donc voilà. Deuxièmement, sur votre question, il y a aucun prosélytisme. Donc, Moi, je pense pas que dans ce texte, il cherche vraiment à parler ou à convaincre, c'est à parler aux autres êtres humains ou à les convaincre de changer de mode de vie. Je pense qu'il veut vraiment leur montrer la puissance de ce qu'il a trouvé lui, de ce qu'il a expérimenté lui. En sachant d'ailleurs qu'il ne va pas y passer sa vie non plus. C'est-à-dire que
Walden, il y passe 2 ans et 2 mois.
C'est 2 ans, 2 mois, 2 jours. C'est une expérience et il le dit à la fin, finalement, on finit toujours par se construire nos sillons. Et même si c'est une très belle expérience, à partir du moment où je commence à en prendre l'habitude, elle perd de sa fraîcheur, de sa vitalité pour moi, et donc il part de sa cabane et il revient vivre aussi parmi ses semblables. Et s'agissant de la nature, je pense que la vraie question, c'est la division du travail, c'est-à-dire le fait de déléguer la construction de soi et de son milieu, de son environnement habitable, à des métiers qu'on ne maîtrise plus. Et le fait d'être dépossédé, en fait, de la construction de soi, parce qu'on a besoin de tellement d'intermédiaires et qu'on ne sait plus planter un clou. Et c'est vrai que des textes assez modernes, parce que tout ce qui est réappropriation des savoirs vernaculaires, mais aussi tout simplement du bricolage, de la manière dont sont conçues en fait les choses qu'on consomme si aveuglément, semble aujourd'hui essentiel.
Alors, s'il y a une philosophie, vous l'avez dit, Gaspard Koenig, pour vous, la vraie philosophie, elle est là, c'est quand même justement dans ce travail-là sur soi, c'est-à-dire se demander de quoi on a besoin, que suis-je capable de faire, de quoi suis-je capable de me débarrasser. C'est d'abord, en fait, une philosophie. On parle beaucoup de transcendantalisme, quand on parle de Emerson, qu'il a connu, et de Sorrow. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça, justement, le fait, de revenir à ce qu'est l'individu, à sa bonté naturelle, à ce qu'il peut faire par lui-même?
Alors, je pense d'abord qu'il y a un individualisme très clair chez Sorrow, c'est son activité politique, mais même dans sa désobéissance civile, il le dit très clairement dans un autre texte, quand il refuse de payer ses impôts pour ne pas participer à un gouvernement esclavagiste, il le fait pas pour militer, il le fait pour pouvoir se regarder lui-même. C'est-à-dire, il le fait pour pouvoir ne pas faire le mal. Et il dit très bien, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que de militer. Ne me demandez pas de tout faire. Je ne fais pas tout, mais au moins, je sais ce que je ne dois pas faire. Et je ne contribuerai pas pour pouvoir conserver une vertu personnelle. Mais c'est avant tout ça. Avant d'être une bataille. Après, c'est vrai qu'il va faire aussi beaucoup de conférences, il va essayer de diffuser son point de vue, mais c'est pas sa priorité.
C'est d'abord l'individualisme, le grand trait de la philosophie de Sorrow. Et le transcendantalisme, alors?
Voilà, bon, le transcendantalisme, c'est un mot...
Vous le définiriez comment
Je pense que c'est assez vague, et chez Emerson et chez Sorrow, qui, je crois, s'en est jamais vraiment revendiqué. C'est une manière de s'intégrer à la nature, d'être peut-être dans une forme d'immanence spinoziste, où on participe à tout et où le flux de tout nous touche. Mais je pense pas que ça soit, en fait, le plus important. Je sais plus, j'ai une idée
Ça va vous revenir plus tard, Gaspard Koenig.
Oui, je sais qu'elle traîne quelque part.
Ça peut être trait à l'individualisme.
Oui, on en a fait un anarchiste individualiste. On l'a mis dans cette catégorie-là. Ça me paraît assez juste. Sur l'expérience de soi, je pense que c'est ça qui légitime, en fait, pour lui, le propos philosophique. C'est toujours de l'avoir. D'avoir malaxé soi-même son propos. Et voilà ce que je voulais dire. C'est que toujours. C'est un peu aussi un discours de la méthode où on fait table rase de toutes les idées reçues et on se pose des questions de base, mais d'une manière très différente, évidemment, de Descartes. Et la question de base qui se pose, par exemple, au tout début du texte, quand il parle de son habitat, c'est de quoi ai-je besoin pour être protégé des... D'abord, à quoi sert un habitat? Être protégé des éléments. De quoi ai-je besoin? Finalement, peut-être que j'ai besoin seulement d'une boîte. Et il décrit les boîtes dans lesquelles les ouvriers des chemins de fer mettent leurs outils. Et il dit finalement, c'est la taille d'un homme, c'est une sorte de cercueil amélioré. Peut-être pourrais-je me contenter de cette boîte. Et il se dit, ah, mais finalement, quand même, dans cette boîte, je vais avoir du mal à bouger, je vais avoir du mal à respirer, je vais pas pouvoir me faire la cuisine, donc ça pose quand même un certain nombre d'inconvénients. Donc il va aboutir finalement à cette cabane d'une pièce, de plein pied dans la nature, et ça, c'est assez important aussi, c'est parce que généralement, quand on construit une maison, même quand on est très écolo, etc., il y a une espèce de réflexe anthropologique qui fait qu'il y a 2-3 mètres devant sa maison où l'espace est un peu aménagé. Il y a une transition entre le sauvage et l'intérieur. Et lui, il veut pas de transition. Donc, il n'y a même pas, par exemple, de paillasson. Pas de paillasson, il y a juste une pierre. On va directement de la nature au terrier. Voilà. Et sa maison, c'est un terrier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va partir, voilà, il remet en cause toutes les évidences, et il part de quoi ai-je vraiment besoin ? Bah, peut-être d'une boîte, non. Alors, on va dire une boîte améliorée, donc ça sera sa cabane. Une seule pièce, un foyer, ça c'est le plus important, c'est-à-dire un feu. Et puis une construction aussi économe que possible, qu'il détaille et qu'il chiffre.
Le fermier, au visage buriné, tire sur les rênes de son attelage pour s'arrêter et s'enquérir de ce que vous fabriquez, étonné de ne pas voir de fumier dans vos sillons. Puis il se met en devoir de vous conseiller l'ajout d'un peu de sûre, ou de saleté de n'importe quel genre, ou bien peut-être d'un peu de plâtre, ou d'un peu de cendre. Voilà donc qu'ils avaient sous les yeux deux acres de sillon, tout juste une petite charrue à bras, du fait d'une aversion pour les autres modèles de charrue, ainsi que pour les chevaux de trait, et nul sur nulle part. Les voyageurs passaient, et dans le claquement de leurs essieux, je les entendais comparer mon champ aux autres cultures qu'ils avaient vues en chemin. Et je pouvais ainsi me tenir au courant de ma situation précise dans le monde agricole. S'il était bien un champ qui ne figurait pas dans les rapports Coleman, c'était le mien. Mais au fait, qui estime la valeur des récoltes que la nature produit dans les champs non cultivés par l'homme et plus sauvages encore que le mien ? On pèse soigneusement les récoltes de foin cultivé, on évalue leur degré d'humidité, on jauge leur taux de silicate ou de potasse. Mais dans tous les vallons, au bord de toutes les mares, dans les prairies et dans les bois, dans les marais, poussent des cultures riches et variées qui se trouvent seulement n'être point récoltées par l'homme. Mon champ était, si vous voulez, le chaînon manquant entre les terres cultivées et les espaces sauvages. Comme il existe des pays civilisés, des pays semi-civilisés, et d'autres encore sauvages ou barbares. De même, mon champ était, quoiqu'en un sens non péjoratif, un champ semi-cultivé.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait du chant de Haricot, chapitre dans Walden ou La vie dans les bois de Henri David Thoreau, lu par Nicolas Berger. Je précise que Coleman, donc Henri Coleman, avait commandé et était l'auteur d'une série de rapports annuels officiels sur l'état de l'agriculture dans le Massachusetts. Donc c'est le texte que vous nous avez recommandé, Gaspard Koenig. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ? Là aussi, on est pris dans une description, hein, dans le livre. Alors que dit ce texte ? Et qu'est-ce que c'est que la semi-culture, en fait ? C'est ça, c'est tout le sens du texte.
Alors pour moi, cette demi-culture, c'est vraiment la base philosophique de ce qu'on appellera, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agroécologie. C'est-à-dire l'idée de cultiver la nature en trouvant dans la nature des solutions aux problèmes posés par la nature elle-même. Donc, déjà, sur le plan technique, c'est très clair, puisque Thoreau refuse les engrais, alors les engrais chimiques de l'époque, il parle du plâtre. On voit dans d'autres passages qu'il refuse aussi les herbicides. Donc voilà, il n'y a pas de chimie, il n'y a même pas d'amendement d'ailleurs naturel, puisqu'il n'y a même pas de fumier. Donc c'est vraiment le sol qui doit être vivant et qui doit être entretenu comme un sol vivant. Deuxièmement, ça paraît pas dans le texte, mais la première année, Thoreau avait fait labourer quand même son champ, qui est un champ à peu près d'un hectare. Et puis, la deuxième, il se dit finalement, ça m'a coûté trop cher le labour. Et c'est toujours la même logique, qui est une logique très économique au fond, et revendiquée comme telle, économie au sens vraiment aristotélicien du terme, c'est l'économie du foyer, c'est comment je suis en équilibre dans les flux entrants et sortants de ma propre existence. Et donc il dit, bah, je vais essayer sans labour. Et alors là, c'est très très moderne. Il est sur ce qu'on appellerait aujourd'hui les nouvelles méthodes culturales, c'est-à-dire du semis direct, sans labour, sans engrais. Donc c'est le nec plus ultra de l'agroécologie. Et évidemment, il est contre la science agronomique de son temps, donc le rapport Coleman, ça doit être à peu près l'équivalent de la FNSEA aujourd'hui. Et il donne une doctrine à cette agroécologie. Il dit, c'est pas simplement que c'est, alors c'est d'ailleurs plus efficace, plus pérenne, plus soutenable et nécessaire au maintien de la biodiversité, on pourrait en parler longuement, mais c'est aussi un principe philosophique qui est de ne pas essayer de trop cadenasser, discipliner la nature, de l'orienter, de l'aiguiller, d'assumer le fait qu'on la jardine. C'est un peu le jardin en mouvement, quoi, de Gilles Clément, mais là sur le plan nourricier, mais de la laisser aussi un peu faire. Et donc, si j'ai
c'est le laisser faire.
Alors, c'est un laisser faire encadré, hein, parce qu'il cultive quand même un champ. Il le vend au marché, donc il ne se contente pas de la cueillette. Mais là dedans, il dit si j'ai un haricot qui pousse un peu de travers, je vais pas éclaircir, je vais laisser faire. Je vais voir ce qu'il donne ce haricot. Il y a peut-être une raison il a peut-être une raison pour pousser de travers. Et ça, c'est un respect très fort, justement, de tous les individus, de tous les vivants, que ce soit le vivant humain hors de la bureaucratie ou le vivant végétal. Disant, ben, voyons ce qu'il essaye de nous dire, ce qu'il essaye de faire. Peut-être trouver une solution à un problème à laquelle personne n'avait pensé avant, ce haricot. Et au fond, ce qu'il promeut, c'est quoi? C'est la désobéissance civile du haricot. Et c'est l'idée que le législateur qu'il est, lui, sur sa propre terre, le législateur qu'il est vis-à-vis de la nature, va tolérer cet espace de désobéissance civile qui est aussi un espace d'expérimentation. Et alors, son truc en plus, ce qui est génial, c'est qu'il nous le démontre économiquement, son truc marche. C'est-à-dire que il a évidemment très très peu de coûts. Et il fait le calcul que, à la fin de l'année, son revenu net, c'est-à-dire le revenu de ses haricots, est supérieur au revenu net des agriculteurs voisins qui ont des grandes fermes, qui sont endettés, qui ont plein d'outils, qui doivent tout rembourser, qui sont constamment à courir partout, et qui, in fine, en vivent moins bien que lui. Et à un moment donné, il dit, je suis très fier d'être celui qui a fait le plus d'argent de tous les agriculteurs du coin, parce que, justement, j'ai tellement peu de coûts et peu de besoins que j'ai dégagé exactement ce qu'il me fallait pour assurer ma subsistance. Ça, c'est complètement... Donc, c'est à la fois une vraie philosophie agricole de la manière dont on traite la culture, enfin, les champs cultivés, les espaces cultivés, et c'est aussi une philosophie économique de l'agriculture. Et aujourd'hui, il y a des rapports, d'ailleurs, qui montrent, qui sont marrants, qui évoquent vraiment Solo, même si c'est des rapports de France Stratégie, donc je peux dire que l'écriture est un peu moins politique, mais qui montrent que les agriculteurs qui font la transition en agroécologie ont peut-être moins de chiffre d'affaires, mais davantage de revenus parce qu'ils ont évité tellement d'intrants, tellement de coûts extérieurs.
Alors, il faut quand même vraiment lire ce chapitre sur le champ des haricots, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est-à-dire que le haricot est une figure philosophique puissante chez Sorrow. Il dit, il a cette phrase au début du chapitre, « Qu'apprendrai-je des haricots ou les haricots de moi ?» Et on a souvent fait, en fait, du principe de désobéissance civile. On y a vu la source comme ce refus de payer les impôts. Oui. C'est clair, mais en fait, la désobéissance civile, c'est d'abord ce haricot qui pousse tout seul. Et c'est ça, en fait, la vraie désobéissance civile. En fait, il faut se faire haricot.
Oui, alors d'abord, il faut préciser que le terme désobéissance civile est posthume, a été donné par un éditeur et que ce rôle n'a jamais explicité comme tel. Mais bon,
mais c'est,
il tombe très bien.
C'est un nom, en tout cas, génial.
Soro parle d'un droit à la révolution. Et
David de résistance aussi.
Et David Graeber, qui est anthropologue anarchiste contemporain que j'adore, parle d'un droit à la désobéissance qui, pour lui, est un des principes fondamentaux de l'anthropologie et du développement des communautés premières. Et je pense que cette idée de désobéissance est absolument clé, à la fois, encore une fois, pour la société et pour le rapport à la nature. Ce que ce texte nous dit aussi, c'est que son champ, il attire les colibés des agriculteurs voisins. Et c'est en fait un des grands aspects du problème agricole contemporain, c'est que quand un champ est cultivé en agroécologie, les autres disent « ça fait pas propre ». Et quand on cultive, moi quand j'écris un texte, je suis tout seul face à mon ordinateur, quand on cultive un champ, on est immédiatement exposé au regard des autres. Lui, il a beau être dans une forêt un peu isolée, en fait, il y a toujours quelqu'un qui passe et qui vient comparer et qui vient se moquer. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il faut quand même une force intérieure, une conviction personnelle très ancrée pour passer par-delà le stigmate social, en fait, qui est attaché à cette demi-culture ou à cette culture demi-sauvage.
Donc cette philosophie individualiste de Sorrow, Gaspard Koenig, elle se fonde sur évaluer ses besoins propre, personnel, la singularité, la diversité, mais aussi une forme de résistance au conformisme.
Et je dirais que cette résistance est à la fois épaulée et illustrée par la recherche du sauvage. C'est vraiment très important pour lui.
Il faut revenir sur ce terme de sauvage, je pense. Oui. C'est vraiment important.
Son dernier texte, c'est un texte sur les pommes sauvages. Et il explique que bientôt, il n'y aura plus de pommiers sauvages, que c'est dramatique, et qu'il va aller chercher les dernières pommes sauvages. Et donc, il trouve son pommier sauvage, il goûte la pomme. C'est un peu une pomme acide, si vous voulez. Donc, c'est dégueulasse. C'est âcre, ça ne marche pas. Et là, il explique pourquoi. Ce pommier sauvage a eu beaucoup plus de difficultés que les pommiers domestiques à se développer. Et donc, ça n'a pas été sa priorité de faire des fruits très juteux. Et puis, il dit, mais c'est en fait parce que je m'y suis mal pris. Il faut que j'aborde différemment ce pommier. Il faut que j'ai marché 2 jours, que j'ai traversé des ronciers, que j'ai froid, que je me sois égratigné, blessé, etc. Enfin bref, que j'arrive dans un état moi-même un peu sauvage pour l'apprécier. Et il dit, il faut développer le goût sauvage. Et en fait, on retrouve ça en permanence dans son œuvre. Dès qu'il a un problème, il va vers le sauvage. Quand il sort de prison, justement, après cette nuit où il se fait arrêter pour refuser de payer ses taxes. Bon, alors, d'ailleurs, c'est comme Walden, hein. Faut rappeler quand même que Walden, c'est un terrain qui appartient à Emerson et que la prison, c'est sa tante qui a payé la caution au bout de quelques heures.
Oui, on a beaucoup romantisé cet acte de résistance.
Bon, c'est aussi un écrivain et puis voilà, il met les choses en scène. Mais la première chose qu'il fait, il part, il va cueillir les myrtilles sauvages. Donc, c'est sa manière de toujours prendre une espèce de perspective sur sa société pour pouvoir, en fait, qu'est-ce qui justifie la désobéissance civile? Si on est un républicain absolu, on dit mais la désobéissance civile, ça va pas, parce que la loi, c'est la loi, il faut ensuite la voter avec ses représentants, et on n'a pas d'espace extérieur à la loi. Il dit si, il y a un espace extérieur à la loi, c'est l'espace du sauvage qui me donne la légitimité de juger de ma démocratie, qui me donne un point extérieur à ma société, aussi démocratique fut-elle. Pas assez démocratique d'ailleurs à son goût, puisque lui... Alors, il voit un progrès quand même entre la monarchie constitutionnelle, la démocratie, et ce qui devrait venir ensuite. Alors, il n'est pas très clair, c'est pas un théoricien politique, mais enfin, c'est globalement une forme d'anarchisme ou de communauté fonctionnant sur le principe du consensus. Ça, c'est clair, ce qu'il a en tête. Voilà, mais toujours aller retrouver le sauvage pour mieux se mettre dans son monde. Pas pour y rester.
Mais il y a des objections qu'on peut faire aussi à Sorrow. On va juste finir là-dessus. Gaspard Koenig, on a parlé de la faisabilité, mais on pourrait parler aussi quand même de le monde a changé. En fait, on est en 1845, 1847, quand il était à Walden. Voilà, on est presque 200 ans plus tard. Le monde est plus tout à fait le même. Et puis, il y a aussi derrière ça, derrière l'individualisme, une promotion, en fait, du retour. Enfin, il y a une forme de retour de possibilité de la concurrence. C'est-à-dire que, le haricot qui pousse, droit, le haricot qui pousse mal, qui va le choisir, et c'est pareil entre les individus en fait. Il y a quand même, voilà, ça revient, c'est chacun pour soi quoi.
Oui, alors pas tout à fait. Donc d'abord, Sorrow, il est conscient qu'il vit la fin d'un monde. Et il y a des moments assez émouvants, très proches d'ailleurs de ce Tocqueville à la même époque aux États-Unis aussi, où il dit tout ça va disparaître. Mm. Où il dit sur ce lac de Walden, on va utiliser l'eau pour les canalisations d'eau potable de la ville, et puis probablement construire des villas tout à côté. Et puis maintenant, c'est une espèce de site touristique que Sorrow aurait absolument détesté. Donc il est conscient, et pareil sur les pommiers sauvages, il dit bientôt il n'y en aura plus, et quel triste monde où il n'y en aura plus. Donc il est quand même conscient de vivre vraiment la fin le début de l'Anthropocène quelque part, et la fin du monde sans l'homme. Et il en est triste, et je pense que aujourd'hui on ne peut que constater qu'il a eu raison sur ce point, et essayer de construire nos propres espaces de sauvages, mais c'est sûr que c'est difficile. On peut pas aller construire une cabane comme ça dans les bois en France. Tout appartient à quelqu'un, tout est surveillé, tout est réglementé. On peut même pas aller sur n'importe quel chemin, puisque les lois récentes rendent de plus en plus difficile de se promener sur des chemins qui sont pas balisés, réglementés, validés, fléchés, etc. Donc même sortir des sentiers battus est quelque chose qui est physiquement difficile à faire aujourd'hui et qu'il faut s'astreindre à faire en prenant le risque de le faire pour retrouver ce qu'il appelle le goût sauvage, mais effectivement c'est pas évident. Ensuite, sur l'individualisme, il dit pas du tout, enfin évidemment que jamais Solo dit chacun pour soi, il dit simplement faites vos preuves quand même, faites vos preuves. Bien sûr qu'on partage, bien sûr qu'il a un fond, une d'ailleurs sa lutte contre l'esclavage, le montre, il a une empathie très forte pour ses semblables, pour ceux qui souffrent. mais il dit d'abord quand même, faites vos preuves, montrez que ne venez pas les mains vides. Et il a des mots très durs sur par exemple contre la charité ou la philanthropie. Et il a un peu cette idée de dire ce être vertueux pour soi, en soi-même, va forcément avoir en fait des conséquences bénéfiques, positives sur les autres. Mais commencer par les autres, c'est un mauvais départ.
All I confess, I had myself a good laugh, remembering the times of my provincial naivety, when I was ready to break horns of all the cows, just to establish myself as non-conforming. Well, time has passed and I looked back with a different eye, and I thought it's time to readjust with wonder why guy. I reached out for a pen to sign a peace treaty, but suddenly I got up and to running wild against the nature, against the grain, for as long and as far as you can, for only there is entertainment for a heart of merry lasting man. Oh, merry lasting man.
Cette chanson, pardon, Gaspard Koenig, pour introduire cette séquence de fin d'émission, vous avez évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie tout récemment. Place maintenant à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que décidément vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors j'ai choisi, c'est une expérience aussi très récente, François-René de Chateaubriand, dont j'ai lu cet été Les Mémoires d'Outre-Tombe vraiment intégralement. Et ça aide parce que je travaille sur un texte sur les ruines et puis je voulais, voilà, un peu par devoir professionnel, comprendre ce qu'en disait le père fondateur de cette notion de ruine.
De l'urbex,
voilà,
on pourrait dire.
L'urbex, ouais, complètement.
De l'exploration de l'urbex.
Complètement, c'est ce qu'il fait à Rome, dans les ruines romaines, mais aussi dans les ruines récentes de la ville, en fait. Mais c'est absolument insupportable à lire. C'est énorme. C'est pour moi. Alors, je suis désolé, ça va peut-être choquer, mais c'est une écriture française hyper classique, mais qui est pas belle. Enfin, je veux dire, quand on lit la langue de Montaigne, quand on lit la langue même, si on prend les projets d'écriture de soi, de Sartre, de le siècle d'après, c'est des langues complexes, riches, drôles, etc. Là, c'est une langue qui a un vocabulaire, en fait, très limité, qui est très empoulé, qui est d'une arrogance inouï, à chaque page, il se met en valeur, il dit, et si on m'avait écouté, j'aurais sauvé l'Europe, et d'ailleurs, c'est moi le plus grand homme d'État, mais je suis aussi le plus grand poète, et d'ailleurs, je vais vous le prouver, et alors là, il nous met des paquets de documents qu'il emporte avec lui dans ses malles, pour vraiment nous montrer sa vie, et en fait, je me dis, mais c'est pour ça que les ruines le dépriment, c'est parce que ce qui le déprime, c'est de ne plus exister, lui, François-René de Chateaubriand, il est tellement génial qu'il supporte pas l'idée de la disparition.
De devenir une ruine lui-même.
Oui, la disparition des choses, et qu'il veut absolument documenter son existence.
Mais c'est marrant, Sorrow est quand même arrogant, mais il n'a pas cette arrogance-là, en fait, de Chateaubriand.
Mais Sorrow n'a aucune suffisance. Chateaubriand a une suffisance sociale. C'est-à-dire que voilà, il en fait des paquets sur le fait qu'il a été pair de France, qu'il a fait ceci, qu'il a vendu tant d'exemplaires. Sorrow s'en fout. Lui, il a une fierté, qui est une fierté, effectivement, très personnelle, qui peut être dure, qui peut être blessante pour les autres, mais qui est quelque part très vertueuse, quand même.
Merci beaucoup, Gaspard Koenig. Vous ne voulez pas rien rajouter sur Chateaubriand, c'est bon. Vous avez fait
je pense qu'il a eu son compte, là.
De vous, on peut lire Agrophilosophie réconciliée, nature et liberté, paru aux éditions de l'Observatoire, bientôt en poche. Toujours aux éditions de l'Observatoire, votre roman Humus est disponible. Il sera aussi bientôt disponible en poche. Et votre prochain roman, À quoi parer, en janvier. Pour lire Walden ou La vie dans les bois de Sorrow, plusieurs éditions sont disponibles. Chez Galmester, dans la traduction de Jacques Mélos, ou aux éditions Le mot et le reste, dans la traduction de Brice Mathusson. Un grand merci à Manon Delasselle et à Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation et à la lecture des textes, à Dalia à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.